Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette conférence qui promet d'être enrichissante, sinon sinon étrange, et pour nous aussi. Nous avons avec nous Laurent Genefort qui est ici en tant qu'auteur, même s'il a également travaillé dans le jeu vidéo avec Eric. Eric Chahi, créateur de jeux vidéo et notamment du mythique Another World, dont c'est l'anniversaire des 20 ans cette année.
Bonjour.
Et qui est jouable dans l'espace jeux vidéo à l'entrée sur d'anciennes consoles. Et puis...
Quoi ? Non, mais j'aime bien le terme d'anciennes consoles. On en parlera, on va reparler.
Donc Jeanne Rousseau, qui est, comme elle se décrit, s'est décrit hier, chef d'entreprise, mais en fait, elle dirige un studio de jeux vidéo, Spiders. Et, David Calvo, donc, qui est l'instigateur de cette conférence, et qui est également l'inventeur du mot hypernature, a priori, si je ne me trompe pas.
Et qui est auteur, il ne faut pas oublier.
Ah oui, il est auteur et game designer aussi chez Ankama, tout ça, donc, et poète aussi, je pense. D'ailleurs, on devrait le voir aujourd'hui.
J'ai du cheveu.
Pour ce qui est de ce qui va passer à l'écran, je n'en ai pour l'instant aucune idée. C'est Eric qui va être le maître de cérémonie de l'image. Et pour commencer, je vais poser la question à David. Donc l'hypernature, personnellement, si j'en réfère à mon modeste background scientifique, je me rappelle d'un prof de maths me disant qu'un hypercube, c'est un cube à n dimensions. Est-ce que l'hypernature, on peut l'approcher aussi simplement? Je ne crois pas, mais vas-y, commence. Il
faut d'abord charger les données.
D'abord charger les données de la conférence.
Ça date de... Enfin non, c'est... L'ordinateur date de 83.
On se sent vieux, là.
Alors, l'hypernature. Ça y est. Alors, si on se réfère à l'architecture, le terme d'hypernature est tout simplement une décoration architecturale qui vise à reproduire un environnement naturel dans un bâtiment, sur un mur. En ce moment, on voit beaucoup de coulées végétales comme ça sur les murs. C'est une forme d'hypernature, c'est un terme d'architecte et de paysagiste. Bon, c'est pas. Si vous faites Google là-dessus, c'est ça que vous trouverez. Il y a peut-être un an maintenant, j'avais commencé à me demander s'il n'y avait pas moyen de trouver un mot qui pourrait correspondre à cette texture du virtuel, en fait. Et c'est, par texture, j'entends bien nature. Est-ce que la nature simulée à laquelle nous sommes confrontés à travers l'expérience des jeux vidéo, des mondes virtuels, peut avoir une fonction sur nous qui est l'équivalent de la vraie nature. Au sens, est-ce qu'une promenade dans un monde virtuel peut avoir les mêmes effets sur le mental, peut-être pas sur le physique, même s'il peut y avoir un impact physique différent que celui de la marche, on va dire, mais peut-être de la pause devant un écran, pourrait avoir cette espèce de rebond comme ça, et est-ce que nous pourrions trouver une forme de sagesse? Est-ce que finalement la nature se reproduit elle-même dans le virtuel? Est-ce que les qualités de la nature que nous avons, nous, aujourd'hui, sont présentes là-bas, tout simplement. Et est-ce que nous pourrions, et ça c'est la fin de ma réflexion, hein, est-ce que nous pourrions envisager d'éduquer, de rééduquer l'humanité à l'appréciation de la nature à travers le virtuel? Est-ce que nous pourrions réenchanter notre regard sur la nature à travers cet nouvel intérêt qui est le virtuel? C'est-à-dire que plutôt que de regarder en arrière, on regarderait par là, et ce processus-là nous permettrait de sortir de l'ordinateur et de re-regarder le monde. Alors, et là-dessus, je suis tombé sur un concept de science-fiction qui est très intéressant, qui est assez peu connu. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais qui postule que si nous n'avons pas encore rencontré d'extraterrestres, de civilisations extraterrestres, c'est que les extraterrestres sont trop occupés dans leur réalité virtuelle à eux. C'est-à-dire que pourquoi explorer l'espace, finalement, si on est capable de créer l'espace et de créer les sensations qu'on a à être dans l'espace à travers un ordinateur ? Donc c'est pour ça que personne ne se rencontre jamais, puisqu'on est tous tournés vers nos bécanes, en fait. Et cette fatalité de la postmodernité, en fait, cette fatalité du rapport à l'image, est-ce que nous pouvons, nous, en tant que créateurs, trouver des moyens de lui donner du sens et que ce sens puisse par rebond nous affecter nous et nous rééduquer d'une certaine manière? Alors évidemment c'est complètement idéaliste, hein. C'est pas du tout quelque chose, il y a des effets pratiques, on va en discuter, il y a déjà un frémissement de cette idée qui arrive, c'est très dangereux aussi, mais évidemment la science-fiction s'intéresse aussi au danger, s'intéresse aussi au péril, et si nous ne trouvons pas de solution pour mettre ça en pratique, alors au moins on pourra pointer la manière dont ça peut partir en vrille, quoi. Et ça part déjà en vrille, en fait. Peut-être que aussi il faut identifier pourquoi ça part en vrille et comment ça pourrait moins partir en vrille, quoi. Donc en fait, si on commence, pourquoi on a commencé par ça? C'est parce que finalement notre rapport à l'ordinateur, il est clé là. Et moi j'aimerais poser une question à Eric, en fait, c'est ton premier rapport à l'ordinateur, est-ce qu'il a été de l'esprit ou est-ce qu'il a été du corps? On est dans un festival de science-fiction, non? Attendez.
Il est un peu des deux, en fait. Il est à la fois de l'esprit. Il est de l'esprit parce qu'on peut observer quelque chose derrière lequel il y a du process, il y a du calcul. C'est pas juste des données qui sont lues, c'est des données qui sont calculées. Et connecté à ça, il y a un aspect physique, donc qui est l'interaction avec. Qu'on a vu là. On tape sur un clavier et puis on lance le chargement du programme. Voilà. Ce sont les deux. Mais le premier contact fut visuel, quoi qu'il en soit. Donc c'est d'abord l'esprit, puis le corps. Je vais rebondir sur ce que tu disais, le rapport entre donc la nature, la vraie nature et ce qu'on pourrait retrouver dans le virtuel, dans la nature virtuelle. Je vais faire un parallèle avec la photographie. Est-ce qu'on peut, voilà, finalement, la nature existe, elle est là, et il y a des très belles photos de nature, et ces photos de nature viennent focaliser ensuite le spectateur sur un aspect de la nature. Une photographie peut sublimer la nature, une facette de la nature. Et j'ai l'impression que quelque part, au travers du virtuel, du simulé, c'est ce qu'on peut exprimer aussi.
C'est-à-dire, oui.
Je veux dire capturer la nature.
C'est-à-dire reproduire la nature intégralement sous forme simulée. Je ne sais pas si c'est ce qui serait véritablement intéressant, par exemple. En revanche, mettre en avant une facette pertinente qui que quelqu'un souhaite mettre en avant au travers d'un modèle simulé, ça c'est intéressant. Il y a une espèce de similitude avec ce que je disais sur la photographie. On va faire une sorte de, ça sera pas un cliché visuel, mais ça sera un cliché de tout ce qui relève du comportement de la nature, parce que ce qui nous intéresse au travers du virtuel, c'est tout ce qui relève du comportement et tout ce que ça peut exprimer, tout ce que ça peut faire ressentir. Et là, je ne parle pas à un niveau purement technique, mais je parle de ce que ça peut exprimer au niveau philosophique, au niveau de ce que ça peut porter comme sens. Et je vais m'arrêter là.
Ce qui m'intéresse dans le fait que tu aies choisi un mot qui vient de l'architecture, c'est que le mot hypernature, du coup, reflète une nature qui est idéalisée, qui n'existe pas. même en architecture. C'est qu'on décide de sélectionner un petit morceau de quelque chose qui, pour l'architecte, évoque une nature idéalisée, une nature rêvée. Et finalement, à partir du moment où cette nature-là, on la ramène dans le virtuel, elle est elle-même rêvée et idéalisée. Elle n'est qu'une nature telle qu'on la projette, telle que la projette le créateur ou celui qui l'a construit. Quand Eric nous montre ses volcans, ça reste les siens. C'est des volcans idéaux, quelque part. C'est son rêve de volcan. De la même manière que quand je travaille sur Mars, par exemple, qui est un univers qui m'a toujours fasciné, je ramène ma vision rêvée de Mars dans le virtuel, et je propose effectivement une promenade, tout comme Eric propose une manipulation même au-delà même de la promenade de cet univers-là, mais on reste dans une version une version d'auteur de la nature. On s'approprie une nature et on la rend. C'est pas une nature universelle.
À quel moment la nature devient-elle universelle, en fait ? À quel moment la vision de l'auteur qui s'établit à travers cette nature et cette reproduction de la nature dans le virtuel devient une vision qui dépasse l'auteur et qui commence à appartenir à un monde plus grand, en fait ? Marianne Faithfull disait qu'un monde virtuel ne sera intéressant que quand il aura appris à produire son propre déchet.
Alors,
déjà pas mal, non ?
Oui, ça commence, oui, oui. Donc.
Je ne sais pas si on pourra atteindre cette nature simulée et universelle. Mais bon, en tout cas, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est émergence. C'est-à-dire que voilà, un créateur va modéliser quelque chose, et là où ça devient intéressant, c'est donc il va modéliser un comportement, des règles, il va définir des règles de base, mais comme ces règles interagissent, on obtient donc un système qui est complexe. Bah, ce système complexe n'est pas totalement prévisible, et on assiste à des phénomènes émergents. Et c'est là où ça devient fascinant, c'est-à-dire que ce qui a été généré devient autonome et peut surprendre les personnes qui l'ont créé. Et, par exemple, un exemple très classique, c'est le jeu de la vie de Conway, où avec des règles extrêmement simples, on assiste à des apparitions de motifs et de forme en mouvement. Le jeu de la vie, c'est un... En fait, il faut imaginer une grille avec plein de cellules. Hop. Donc c'est une grille orthogonale. Et chaque cellule peut à deux états, un état vivant, un état mort. Mais je crois que j'ai quelque chose ici. Alors attendez, là, ça sera mieux. Ouais, c'est là. Hop. Ouais, le jeu de la vie, c'est ça. Bon, hein, ça bouge. Ouh. Et donc les règles, c'est extrêmement simple. Donc s'il y a une cellule qui est entourée de trois cellules, une cellule vide qui est entourée de trois cellules, elle naît, elle devient vivante. S'il y a une cellule qui est entourée de deux cellules, elle reste vivante. S'il y a une cellule vivante qui est entourée de deux cellules, elle reste vivante. En revanche, s'il y a moins de deux cellules ou s'il y a plus de trois cellules, une cellule vivante meurt. Du coup, il y a des phénomènes cycliques qui s'opèrent et qui mènent à l'apparition de patterns. Et ces patterns n'ont pas été du tout programmés au travers des règles. Elles émergent des interactions entre ces règles. Donc ça, c'est un système qui est très connu. Et c'est ce qui est fascinant avec le virtuel.
Ben oui, non, mais c'est exactement ça. À partir du moment où on a un système où on va dire... Si, tu veux parler peut-être
avant ? Non, je faisais remarquer que c'est un des tout premiers programmes qu'on tapait sur les micro-ordinateurs qui avait 1K de mémoire vive. Quoi. Donc il n'y a pas plus simple comme règle, effectivement. Oui,
oui. Parce que finalement, on pourrait très bien se dire que toute chose, je suis marseillais, de la nature fonctionne de la même manière. Peut-être qu'on a par mégarde trouvé une espèce de règle universelle qui finalement permet de créer de la vie à une monade, sur une monade extrêmement simple. Peut-être que les atomes fonctionnent d'une certaine manière comme ça, et peut-être que s'il y a deux atomes qui réussissent à avoir un courant électrique, un champ électrique suffisant pour en activer un troisième, le troisième va s'allumer et on va avoir une réaction en chaîne comme ça, et on va avoir du mouvement, et donc le mouvement crée la vie, en fait. Donc peut-être que mais alors c'est vraiment de l'hypothèse haute, hein. Si on a un système, si on a un ensemble de systèmes simples qui ont des interactions complexes et une émergence de choses que nous n'avions pas prévues, peut-être que nous pouvons reproduire ça à l'intérieur des mondes virtuels, et là on arrive effectivement à tous les cas de conscience sur la singularité, et là on est dans la science-fiction pure, mais on n'en est pas encore là. Le but du jeu, c'est d'être une étape un tout petit peu avant, en fait.
Dans une invasion de la nature virtuelle, en fait, où on se retrouve avec la nature virtuelle qui gagnerait petit à petit tous les programmes à l'intérieur, comme des bâtiments en ruine qui sont
oui, c'est ça. Mais
envahis
alors,
d'une...
Mais alors c'est une manière de voir les choses, mais en même temps, on peut aussi penser que c'est pas parce que c'est du pixel que c'est moins vivant qu'un organisme. C'est-à-dire que peut-être que le pixel lui-même est un organisme et qu'il a droit au statut d'organisme et que l'algorithme a droit au statut d'organisme aussi, quoi, d'une certaine manière.
Pixel, il y a la notion de virale, finalement.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, peut-être que le distinguo qu'on fait entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel, donc ce qui est artificiel, ce qui est à l'intérieur de notre création, est peut-être déjà biaisé. C'est un regard philosophique qui est peut-être hérité d'une certaine forme de... d'arrogance, pas de la science, je voudrais pas dire ça, mais de la pensée rationnelle qui tente de trouver une explication à tout, mais qui finalement ne peut répondre à rien, concrètement, ne peut qu'offrir des hypothèses. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. J'étais dedans, ça y est, je l'avais. Je l'avais et je ne l'ai plus. Et donc c'est pas grave. Mais justement, on pourrait montrer un phénomène de nature simulée.
Oui, alors... Donc, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle From Dust, et c'est un jeu qui est basé sur une simulation. Et en tant que passionné de volcans, on retrouve des volcans dans le jeu. Et donc, ce jeu est basé sur un moteur qui va simuler des écoulements de fluides, donc d'eau, de lave, et d'une manière. Donc, c'est aussi sur une grille. Hein. Sauf que la représentation visuelle est nettement plus jolie. Ce sont des règles très simples. Chaque case applique des règles très simples de diffusion de fluide sur les cases adjacentes. Et ce que vous allez voir là, c'est pas du tout, mais c'est absolument pas codé. Ça n'apparaît pas dans la description des règles. Vous allez voir la construction d'un volcan. Donc je vais lancer. Hop.
Ce que tu vas montrer là, c'est quelque chose qui est pris du jeu ou qui est pris d'expérimentations qui ont été faites avec le moteur du jeu.
Là, ce sera. En fait, c'est avec le moteur du jeu. C'est une vidéo que j'avais réalisée il y a un peu plus d'un an pour une conférence qu'on avait donnée à la Gamescom pour parler de la simulation, justement. Et donc c'était avant l'achèvement du jeu, mais c'est quasiment c'est pareil. Alors, il n'y a pas de son, là. Donc, l'écoulement de fluide, là, tout ça, c'est pas du précalculé. Hein. Tout ça, c'est du temps réel. Donc là, le volcan qui va se créer devant vos yeux, en fait, c'est fait sur, on va dire, en une demi-heure. Voilà, on a pu voir ce volcan se créer. Et on voit que l'édifice volcanique, il est réaliste, quoi. Enfin, on y croit. C'est une vraie forme de volcan. Il y a une complexité des coulées de lave. La lave se fige, elle se refroidit. Hein. C'est une forme d'émergence au niveau de la simulation géologique. Je peux vous montrer la même chose sur des rivières. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. Je crois que c'est là. J'espère. Ouais. Là, il y a une interaction. Donc, il y a la terre qui est déposée. On voit que l'eau est détournée. L'eau érode le terrain. Elle emporte de la terre. Là, c'est accéléré. Mais on voit tout le phénomène d'érosion se fait en temps réel. Donc, si on change le cours de la rivière, l'érosion sera faite différemment. La végétation se propage là où il y a de la terre. Les formes des rivières qui sont arrondies, il y a des deltas qui peuvent se créer, tout ça, ça fait partie de la simulation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut interagir avec tout ça et appréhender le système.
appréhender comment le paysage, un paysage peut se former, comment un volcan peut se former, comment une rivière peut se former. C'est quelque chose difficile à appréhender dans la réalité, parce que les choses peuvent prendre beaucoup plus de temps. Et là, je rejoins un peu le cliché photographique, c'est que finalement, ça, c'est une version extrêmement simplifiée du réel. Mais on en a extrait l'essentiel pour montrer ce qui nous intéressait.
Oui, c'est assez amusant. J'ai pas pensé à ça au tout départ quand on avait commencé à évoquer le sujet, mais l'hypernature, ça me rappelle quand même la caverne de Platon, l'espèce le rapport à la mimésis. Alors, à quel moment, en imitant la nature, finalement, on s'enferme pas dans une nouvelle caverne au sein de la caverne? Et on perd le contact finalement. Alors c'est bien l'imitation, mais jusqu'à quel point elle nous échappe et quand est-ce qu'elle devient intéressante?
Alors c'est intéressant, et je peux vous montrer des vidéos que j'ai tournées sur des volcans actifs. Donc ça dure 5 minutes, mais c'est vraiment, je suis allé sur le terrain, donc j'étais vraiment dans des cratères, en face de coulées de lave, etc. Et vous allez voir que la sensation est tout à fait différente. On ressent un niveau de complexité qui est démesuré par rapport à ce qu'on vient de voir là. Ça paraît tout plat. Après, vous allez voir, ça vous paraît complètement plat. Et donc il y a une vraie densité. Il y a une vraie densité dans le monde réel qui aujourd'hui est incomparable par rapport à ce qu'on peut.
Faire. J'aimerais te poser une question. Vas-y, lance ta vidéo.
Ouais, mais il va y avoir du son.
Ah, donc, d'accord. Moi, j'aimerais juste poser une question. C'est toi, en tant que créateur, est-ce que tu tends vers cette complexité, vers cette densité-là d'informations dans le paysage, ou est-ce que tu préfères justement chercher l'abstraction et chercher l'essentiel? Et pourquoi tu chercherais l'essentiel plus que la densité? Est-ce que ta volonté d'être un démiurge est moins forte que ta volonté d'être un game designer, enfin, ou un truc dans ce genre-là?
Bon. Bah, merci, David. Il y a deux questions là, donc c'est toujours un peu. Alors, sur l'aspect simplification du réel, c'est un jeu là, donc il y a un choix délibéré de simplifier le réel, mais il y a aussi la technologie qui ne permet pas de tout faire. Donc, le choix de simplifier le réel, c'est par exemple d'avoir deux types de matière, de la roche et du sable, pour que le joueur puisse clairement identifier ce qui est dur et de ce qui est mou, de ce qui est fluide. Parce que si on commençait à avoir des gradients, ça serait moins évident. Je dis pas que ça serait pas intéressant, mais bon, dans un contexte ludique, des fois faut simplifier un peu. Et après, les joueurs peuvent approfondir dans le réel, justement. Et ta deuxième question, c'était par rapport au côté entre
démiurge
et game designer.
À quel moment tu as envie d'être exhaustif en fait dans ce que tu fais, et à quel point justement la mécanique ludique est pas un frein à tes vrais désirs en fait? C'est juste une question, hein, bah moi, je sais pas, hein.
Je dirais que ça fusionne, oui, ça a plutôt tendance à fusionner. Il y a des choses que j'aimerais faire, mais qui seraient peut-être difficiles à intégrer dans un système de jeu, parce que ça rajouterait de la complexité, mais qui seraient sympas, par exemple, au niveau de la simulation. On pourrait imaginer que la végétation, quand elle meurt, elle rajoute de la matière. Bon, c'est quelque chose qui est faisable.
Est-ce que ce processus de recyclage qu'on voit à l'œuvre dans la nature en permanence, est-ce qu'il existe déjà dans ces systèmes-là? Est-ce que tu as déjà vu des systèmes de recyclage comme ça, environnementaux, dans l'intérieur de monde virtuel, qui amènent une émergence?
Ah, tu veux dire le...
Genre la noisette qui tombe, qui féconde le sol, qui crée quelque chose, quoi. Mais vraiment...
enfin, des choses qui nous auraient surpris, par exemple, dans la simulation?
Oui.
Le fait de voir des rivières se créer, c'est quelque chose qui n'était pas évident, et quand on l'a vu pour la première fois...
C'était pas envisagé? Est-ce que vous avez dit, il va probablement se créer des rivières?
En fait, ça n'a pas bien marché au départ. Donc on a réglé le système de sorte que ça arrive. On a réglé les paramètres d'érosion de sorte que ça arrive.
Alors qu'est-ce que tu veux dire, ça n'a pas bien marché?
Au début, par exemple, la terre, elle ne se lissait pas. Et du coup, on se retrouvait avec donc une érosion qui créait des canyons profonds. Et d'ailleurs, c'était super foireux pour le gameplay, parce que les hommes ne pouvaient plus passer, c'était des obstacles incommensurables. Et il a fallu trouver une solution. Et ça a été une vraie barrière technique, d'ailleurs, parce qu'on était vraiment, on était au taquet en termes de performance. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'était de lisser la terre, en fait, qui ressemble plutôt à du sable, de sorte que quand l'eau emporte de la terre, les rives se lissent petit à petit. Et c'était crucial pour voir des deltas se former, voir des rivières sinueuses. Et on ne savait pas si on allait atteindre des phénomènes avec des rivières sinueuses. Ça nous a surpris. Parce qu'on aurait pu juste avoir, on a de l'érosion, ça creuse, et puis ça lisse les bords, et ça reste tout droit. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Des aberrations qu'on a pu avoir.
Parce que finalement, à quel niveau, vas-y, lance ton truc, mais à quel niveau le bug est souhaitable ? À quel moment notre monde résulte d'un bug, en fait ?
Regardez, alors ça c'est... c'est sur mon écran, pour l'instant, je lance. C'est juste une image. Ce sont des coulées de lave anguleuses. Alors, voilà, donc c'est exactement le type d'émergence qu'on découvre quand on joue avec une simulation comme ça. On la règle, donc on verrait pas ça dans le monde réel, enfin peut-être, je sais pas, mais là les paramètres de fluidité de la lave, de solidification de la lave étaient tels que on a eu cette émergence. Et puis on a eu ça aussi, donc des patterns très symétriques. Donc là c'était de la lave, hein, le visuel ressemble à de la terre, mais c'était de la lave. Et il y a un côté cellulaire d'ailleurs sur au centre de l'image. Ça ressemble. En fait, si on jouait ça en accéléré, on aurait pu voir des phénomènes qui ressemblent à des divisions de cellules. Enfin, c'était super étrange. Donc, c'est créer de la simulation, du virtuel, c'est compliqué parce que. Il y a plein d'effets de bord. Ce qu'a fait la nature, enfin notre monde réel, toutes les règles qui font l'objet d'études, notre monde est super complexe. Il y a peut-être des règles super simples derrière, chercher exactement à reproduire le monde réel, c'est compliqué.
Alors justement, si on ne cherche pas à reproduire le monde réel, si on cherche à trouver la nature dans ce qu'elle a de plus adapté à son support, les coulées de lave angulaires par exemple, est-ce qu'on n'est pas plus proche de l'expression du médium sur des coulées de lave angulaires qu'en essayant de reproduire et en codant des règles comme ça, méta, qui encadrent des choses pour que ça ressemble à la réalité? Est-ce que finalement la finalité...
D'accord. Je pense qu'il faut s'éloigner de la pure ressemblance de la réalité. Je pense qu'Eric, tu as dû connaître ça toi, enfin, forcément à différents moments en étant game designer. C'est vient un moment où le réalisme finit par nuire au gameplay et on finit par se dire on va pousser le réalisme jusqu'à un certain point pour que le joueur y trouve ses marques, qu'il se sente dans un univers qui comprend, et en même temps on va finir par les arrêter à un certain niveau parce que finalement si on est trop proche du réel on s'emmerde et on est censé quand même offrir du ludique au joueur. Et je suis vraiment vraiment pas sûre que notre rôle en tant qu'auteur ce soit de juste reproduire plus ou moins bien la nature, mais ce soit plutôt de finalement d'amener une nouvelle nature, de recréer une autre forme de nature qui soit spécifique peut-être au virtuel, ou en tout cas qui soit peut-être, Eric aura la sienne, à la limite peut-être que chaque créateur aura la sienne, mais en tout cas la pure reproduction, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure avec la mimésis, n'est pas spécialement intéressante en tant que telle.
En fait, c'est pas une finalité en soi. Tout dépend de ce qu'on cherche à atteindre, c'est la fin qui justifie vraiment les moyens. Et là, l'objectif, c'était de donner une expérience sur le passage du temps, de compresser les échelles temporelles de sorte qu'on puisse voir de l'érosion à notre échelle de temps, à nous, les hommes. C'était important d'avoir un minimum de, de réalisme, parce que c'est pas d'un réalisme absolu, hein. c'est une approximation.
Est-ce que le média jeu vidéo, de par son à la fois la technologie qu'il porte pour la simulation et à la fois son ancrage dans le visuel, puisque c'est une image, est pas du coup plus difficile pour cette expression de nature vraiment différente que par exemple dans l'écrit, où même si on veut utiliser des mots, on s'appuie quand même sur la capacité d'imagination des lecteurs, et du coup on se retrouve avec quelque chose de potentiellement plus délirant ou plus complexe sans perdre totalement la personne, alors que si on faisait une nature complètement délirante visuelle, on n'aurait peut-être pas de prise dessus, on décrocherait les gens, non ?
Dans le roman, on, ce qu'on donne, c'est des mots. Donc on est connecté au lecteur, pas par de l'image ni de l'expérience sensible à travers une interface informatique, mais simplement des mots, en fait. Donc quand on crée une nature étrangère, quand on recrée une nature, tout ce sur quoi on va s'appuyer, c'est sur les connaissances de langage, enfin le langage commun que l'auteur a avec le lecteur, et les souvenirs qui sont rattachés à ces mots, les souvenirs personnels du lecteur rattachés à ces mots. Donc ce qu'on communique, c'est ce qu'on essaye de faire en créant des natures étrangères, c'est on le fait à partir finalement de l'expérience, uniquement de l'expérience humaine du locuteur. Donc c'est orthogonal par rapport à vous. Mais je voulais, je profite du micro. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Jeanne quand elle. Il y a Stevenson qui disait, pas Neil, hein, Robert Louis, qui disait que l'art commence là où finit la vie. Et je trouve que dans From Dust, c'est pas tant, je trouve. C'est on est dans un rapport symbolique, et là où il faut chercher la nature, ou en tout cas la nature extérieure, à l'intérieur de Dust, c'est dans ses fonctionnalités. Quand on a créé les formes de vie de Dust, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'on en avait imaginé une bonne quarantaine de formes de vie, et finalement il y en a 4 ou 5, mais en tout cas celles qui restent sont représentatives de ce qu'on voulait faire quand même. Ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose qui symbolise une fonction vitale, justement. Et les formes de vie qui ont été inventées n'existent pas dans le monde, mais il ne fait aucun doute qu'elles sont vivantes dans ce monde-là, parce que à un niveau symbolique, ça marche parfaitement. Mais pour passer à autre chose, mais pour réagir à toi, ce que tu disais juste avant, c'est je trouve que ta problématique, elle est complètement au cœur d'un roman de Egan qui s'appelle Isolation, et qui est le rapport entre le rapport naturel qu'il peut y avoir et l'écart par rapport à la nature fonctionnelle entre le monde virtuel et la réalité, notre réalité. Et je me rappelle qu'il y a dans le roman, le héros, en fait, c'est une copie numérique d'un personnage, et qui est très en colère contre son créateur, enfin contre son image dans le monde réel. Donc qu'est-ce qu'il fait pour faire chier son créateur ? Il fait couler de l'eau dans le monde virtuel, parce que c'est gourmand, très gourmand en ressources, et ça va lui coûter du pognon, en fait.
Voilà. Non, mais en fait, donc, sur le concept que effectivement, l'écrit se repose sur les mots, donc il y a un langage commun qui est inévitable, et que le reste est fait par l'imagination, par l'esprit et par ce qu'on a dans la tête. Est-ce que le pixel, du coup, dont tu parles notamment dans la description de la conférence et dont tu parlais tout à l'heure, le pixel vivant, est-ce qu'il n'est pas voué pour exprimer une nature différente, plus alien finalement, à ce qu'on soit plus capable de le comprendre, parce qu'aujourd'hui on est obligé de faire des trucs qui ressemblent à la nature?
C'était vraiment un choix.
Non, mais si on fait un truc qui est trop alien visuellement, personne ne l'appréhendra, en fait.
Alors ça dépend. En fait, est-ce que nous ne sommes pas en train de développer, alors que nous sommes en train de nous enfermer dans ces cavernes visuelles d'ailleurs, hein, c'est pour ça que les romans ne sont pas forcément des cavernes, parce que ce sont des mots et pas des images, La caverne, ce sont des images, ce sont des sigles qu'on fait danser sur un mur et qui sont éclairés par une flamme qui n'est pas le vrai soleil. Le vrai soleil est caché, on ne le voit pas. Est-ce que nous ne sommes pas en train de développer, et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser maintenant, avant que ça parte en vrille, justement, et qu'on puisse prendre conscience de ce qui se passe, que nous devons et nous sommes en train de développer un nouveau sens, d'une certaine manière, face au pixel, face au virtuel, face à la densité virtuelle, aux espaces virtuels. Un sens que moi, j'ai pas de nom pour ce sens réellement. Je pense qu'on peut le retrouver dans toutes les cultures chamaniques. On peut le retrouver l'œil du Kundalini là, enfin le troisième œil, tout ce que vous voulez quoi. Moi, j'appelle ça de l'empathie. C'est-à-dire, est-ce que nous allons être capables, nous, en tant que civilisation, d'ouvrir suffisamment notre esprit à accepter que quelque chose qui ne soit pas référencé comme étant la réalité officielle de l'univers que nous partageons, et puisse susciter en nous des émotions et des interactions aussi puissantes que la réalité. Je ne dis pas plus forte, attention, on n'est pas dans un rapport de force, on est dans un rapport d'équivalence. Parce que pour moi, la balance est au cœur du monde, et notamment la balance entre ce que l'esprit pense être la réalité et ce que la réalité nous renvoie comme signaux, comme ce qu'on appelle en jeu vidéo du feedback, the rewards. Et parce que c'est le même processus qui est alors, quoi. C'est ce sens, on active et on reçoit, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde où finalement on reçoit, mais on en parlait hier, on n'active plus en fait, quoi. On n'a plus cette capacité de vouloir activer, de vouloir pénétrer les choses. On se laisse prendre. Et là, on est dans la dystopie, on est dans l'horreur de la caverne. Nous passifs, enchaînés sur nos écrans, comme ça, sans contact avec qui que ce soit d'autre. Par contre, si on est dans l'activité. Si on est dans cette volonté, nous, de développer un sens et de prendre conscience de ce sens pour aller, je dirais presque que c'est de la compassion, quelque part, quoi. Et alors, sans rentrer dans la spiritualité, puisque la compassion est vraiment au centre de la spiritualité, d'être connecté à l'invisible réseau qui unit tous les êtres. Voilà. Quoi ? Je dis une connerie ? D'accord. Est-ce que finalement le développement de la compassion pour un objet comme ça, et qu'on peut retrouver aussi, moi il y a un truc qui m'a absolument bouleversé récemment, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller dans une conférence avec des robots, et j'ai vu des vieux, des gens mourir, à qui on fout des robots, des bébés phoques robots, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est absolument bouleversant, quoi. Au Japon on leur donne des bébés phoques robots, les vieux sont en train de mourir, ils sont là... Et ils sont très tristes, ils ont très mal, et on leur met ce bébé robot entre les mains qui, globalement, a des grands yeux, les regarde, et c'est une boule de poils, quoi, qui fait... qui est gentil, quoi, qui est tout chaud, machin. Et les gens, d'un coup, se transforment. Instantanément, ils se redressent, leurs yeux se lèvent, la cataracte, on dirait qu'elle est partie. Il y a une étincelle de vie qui se recrée immédiatement parce qu'ils s'en occupent. Ils le réchauffent, parce qu'en fait, le truc tremble, il a froid, il faut le réchauffer, et il faut le réchauffer, quoi. Donc, est-ce qu'on n'est pas là dans le nœud de ce que Marshall McLuhan appelait le média froid et le média chaud, qui est que nous devons absolument comprendre en tant que civilisation que notre imagination nous sert à réchauffer ce qui n'est pas vivant. En fait, nous avons un pouvoir extraordinaire. Nous avons le pouvoir de donner la vie à ce qui n'a pas de vie. Enfin, du moins, de manière établie par nos ancêtres, nos instances. Nous avons ce pouvoir-là, il est entre nos mains, et on veut nous convaincre que nous n'avons pas ce pouvoir-là, quoi. C'est un pouvoir très simple, c'est pas du tout un truc supernaturel, c'est la nature en fait. Et est-ce que ce que nous avons créé, nous en tant que civilisation humaine, est-ce que c'est moins naturel que la nature? C'est donc Murray Bookchin qui dit ça, qui est un anarchiste américain qui a beaucoup travaillé sur l'écologie, le rapport au monde, et qui dit quelque chose de très simple là-dessus, qui dit que pour lui, à partir du moment où l'homme peut se sentir supérieur à la nature, il est capable de se sentir supérieur à l'homme. Parce que finalement, la nature nous écrase, elle est 100 fois plus puissante que nous, donc si on est capable d'être maître de la nature, qui vous êtes, quoi? Rien. D'accord? Et ça, c'est le péché originel pour Bookchin, quoi. C'est cet état de fait de dire, non, la nature n'est pas supérieure à nous, nous ne sommes pas supérieurs à la nature, nous partageons cette terre ensemble, quoi. Même si elle ne parle pas. Et que nous faisons partie de la nature, et nos créations artificielles font partie de la nature parce qu'elles viennent de nous, et que nous sommes la nature. Donc, est-ce que le plastique est nature, en fait? Donc si le plastique est nature, le pixel est nature. Et si le pixel est nature, nous pouvons nous engager dans des univers virtuels en utilisant non pas le réalisme et l'hyper-réalisme et le modèle de réalité, mais notre imaginaire pour réchauffer cet ensemble-là et le faire naître, en fait.
Et alors, du coup, est-ce que tu dis le pixel est nature je parlais tout à l'heure de l'espèce de contrainte du visuel. Le pixel, c'est l'aspect visuel. Mais ces mondes virtuels, ils existent aussi de manière algorithmique, et là, donc complètement cachés. et peut-être tout aussi vivant.
Bah c'est ce qui est intéressant. C'est pas, enfin, ce qu'on voit, c'est l'expression d'un algorithme. Et ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec cet algorithme ou ces algorithmes.
Je peux juste dire un mot sur les algorithmes, deux secondes. Nous sommes, nous ne le savons pas encore, mais nous sommes régis par des algorithmes, de plus en plus. Le monde autour de nous, et ce n'est pas du tout une idée de science-fiction, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement concret, la réalité se numérise. La plupart des choses que nous voyons autour de nous sont les résultats d'algorithmes de calcul. Parce que la réalité du monde est la réalité financière, beaucoup, que la réalité financière, c'est une réalité d'algorithme aujourd'hui pure. Il n'y a plus aucun rapport entre la ressource et la valeur de la ressource. Ça n'existe plus. Ça s'est extasié. Et on est dans ce monde-là, quoi. Et nous sommes dans ce monde-là. Donc l'algorithme, il est tout autour de nous, en fait, quoi. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça, finalement, il nous envahit. C'est pas nous, c'est plus nous qui l'envahissons. C'est lui qui vient à nous, quoi.
Est-ce qu'il n'y avait pas déjà une intertransparence entre, à partir du moment où on a créé les mathématiques pour répondre à des lois physiques, pour pouvoir compter la nature, mais pouvoir aussi l'ordonner, pour pouvoir créer des lois qui expliquent ce qu'on vivait, pour pouvoir repousser aussi la peur d'un certain nombre de phénomènes. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, et l'évolution des mathématiques qui amène l'algorithme, est-ce que... il y avait déjà une interpénétration pour moi de... On superpose les mathématiques à la nature, et finalement, la nature nous renvoie aussi des mathématiques. Le fameux nombre d'or qu'on retrouve réellement dans des objets naturels, qu'on a plaqué du coup dans des architectures, mais qu'on a su calculer, qu'on a créé en certaine manière. Et de la même manière, finalement, l'informatique, c'est le niveau presque peut-être au-dessus, ou simplement même l'évolution logique de ça, c'est que maintenant qu'on a calqué les mathématiques pour répondre à la nature, finalement, maintenant, on peut la recréer, et la nature nous revient, en fait, elle nous réenvahit à travers ça.
Des maths ici. Vous faites des maths?
Non.
Non, tu fais pas de maths? Toi, tu fais des maths?
Non. Je suis pas matheux.
Bon, d'accord. On n'a pas de matheux.
C'est un mathématicien dans la salle.
Il y a des béotiens. Est-ce qu'il y a des mathématiciens dans la salle qui peuvent répondre? Est-ce que la maths,
les
maths, c'est la vie? Est-ce que les maths, c'est la vie? Est-ce que les maths, c'est une transcription, c'est une interprétation, c'est une traduction de la vie, ou est-ce que c'est la vie elle-même?
Pour les Bogdanov, ouais, je crois. Ah. Non, mais je crois vraiment. Hop, hop, hop,
un micro là-bas, peut-être?
Oui, un micro.
Alors bon, je m'excuse si je vais raconter des bêtises, mais en fait les maths permettent juste d'exprimer une théorie, c'est-à-dire que tant qu'on reste purement dans le domaine mathématique, il n'y a pas besoin de lien concret à la réalité. Par contre, là où les maths deviennent réelles, c'est quand on fait le lien avec la physique, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, ben voilà, on observe ça dans le monde, on le représente conceptuellement sous la forme des mathématiques, et il y a un lien avec le réel parce que ce qu'on voit et ce qu'on prédit en utilisant les maths est ensuite validé par des faits. Et c'est ce qui permet de lier les deux, et c'est ce qui fait qu'il y a un lien très fort entre les mathématiques et la nature. C'est-à-dire qu'on décrit des règles très simples avec un modèle de maths, et ensuite on va observer dans la nature que ces règles sont effectivement réalisées. Bon, après, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais voilà.
Bon, ça suffit en tout cas.
Merci. Merci.
Donc la question se pose, c'est finalement, est-ce qu'il y a une mystique du chiffre en fait? Est-ce qu'on est capable de. Est-ce que le chiffre est. Peut devenir conscient de lui-même, quoi.
Ouais, alors c'est pas facile là comme question quand même.
Mais non, c'est pas facile, mais en même temps, c'est au cœur du problème de la singularité, qui est un problème qui nous occupe tous dans la SF. Enfin, moi, je suis pas un auteur de SF hein, spécialement, mais alors, je vois le Clodzer qui se marre là. Donc.
Non mais le chiffre.
Continue.
Le chiffre, enfin, pour moi, le chiffre, c'est quelque chose de mort. C'est comme une image qui bouge pas, c'est comme une photo. Ce qui fait bouger le chiffre, c'est du calcul, c'est de la logique, c'est du...
C'est des opérateurs.
C'est du process. Et c'est... Enfin, pour moi, le chiffre, ça... Enfin, bon, je suis pas matheux, hein, mais... ça exprime pas grand-chose, ça exprime un état, c'est tout.
État. Est-ce que c'est pas comme le pixel, finalement?
Oui, un
c'est-à-dire
peu.
Que, de la même manière, mais pour revenir vraiment du coup au jeu de la vie au départ, un chiffre seul en tant que tel, il n'exprime rien, il n'appartient pas à un système, il ne reflète pas non plus de lois physiques, naturelles ou pas. Et finalement, c'est en les mettant ensemble, en les laissant interagir les uns avec les autres, avec des lois, qu'ils deviennent vivants. Et est-ce que là, du coup, on ne revient pas et aux pixels qui s'animent pour créer des patterns et qui, du jeu de la vie. Et de la même manière, de manière beaucoup plus évoluée et plus tardivement, on en arrive finalement à ce qui se passe dans les mondes virtuels conçus et évolutifs et vivants.
Alors, pour vous donner un exemple de ça, bon, qui est vraiment un exemple personnel tiré de mes pérégrinations dans le monde virtuel, ça fait 10 ans maintenant que je cherche et j'ai vraiment parcouru tout un tas de trucs. Les seuls moments où j'ai vraiment pu éprouver quelque chose de semblable à, et sans prendre de drogue, hein. Non, mais je le précise, parce que, voilà, ça y est. Non, sans prendre de drogue, enfin, même si j'en ai pris et que ça a dû laisser peut-être des séquelles, le seul moment où j'ai vraiment compris le vertige que je pouvais avoir face à, aux aberrations de la nature telles que moi je les envisageais, c'était quand je me retrouvais face aux aberrations du code, en fait. Ces canyons dont tu parles, qui sont probablement des choses incroyables, si nous, nous nous matérialisons comme un humain au fond de ce canyon-là et nous pouvons le regarder d'en bas. Je veux dire, pour méditer ou pour faire un pique-nique, ça doit être incroyable comme endroit, quoi. Et ça, c'est spécifique. Non, mais ça, c'est spécifique à ce monde virtuel. Donc, c'est à quel moment allons-nous comprendre que ces environnements-là sont finalement propices à ça? Et je pense qu'on peut trouver une trace de ça dans, chez Bachelard. Et alors, je cite Bachelard parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, et notamment sa théorie sur l'imagination matérielle. Donc, que tout vient de la, que tout vient de la, que l'imagination est avant tout une imagination de matière. Alors, de l'eau profonde, l'eau croupie, l'eau claire, le ciel nuageux, le ciel d'azur, les nuages gros, les nuages mous, toutes ces choses-là, quoi. Et donc, finalement, est-ce que nous pouvons construire sur cette base d'esthétisme, de rapport à l'esthétisme, de mise en relation entre l'émotion et l'esthétisme, un esthétisme, une imagination matérielle nouvelle, d'un nouvel élément, qui est l'élément virtuel, qui est l'élément de pixel, quoi, du mesh, de la texture, quoi, et qui pourrait commencer à induire des espèces d'états seconds, comme ça, de méditation, de rêverie, de descente dans, au fond de soi-même et au fond de, d'un détail, d'une fractale, et pour pouvoir justement créer des moments de réflexion en nous qu'on peut trouver dans la nature normale, dans la vraie nature, en fait.
Moi, j'aime beaucoup dans le labyrinthe de Pan la petite fille qui crée sa porte avec la craie et qui ouvre la porte dans le mur pour rejoindre ces mondes fantasmatiques. Et j'aime penser que dans le jeu, mais je pense que parce que je suis pas auteur de romans, mais finalement qu'on est tous un peu en tant qu'auteur au sens large. On offre un peu des craies aux gens et on leur permet justement de s'ouvrir leurs portes. Alors parfois on rate, mais parfois effectivement on leur à travers juste un détail ou une image ou un mot ou un son pour les musiciens, on ouvre, on donne surtout la possibilité aux gens d'ouvrir cette porte et de s'enfuir un peu, de se créer ce monde fantasmatique qui peut ressembler à la nature mais qui peut ne pas y ressembler. À la limite, peu importe, il ouvre la rêverie. On est dans, là pour le coup, dans quelque chose de très très romantique. C'est, on rejoint Vigny et tous ces gens-là avec l'image du lac et on part dans une espèce de rêverie un peu contemplative, mais qui est aussi créative dans le sens où, et là je pense que c'est en tant que romancier, vous devez plus le ressentir comme ça encore, on projette un monde rêvé, un monde fantasmatique.
Non, le truc, c'est que moi, j'aime pas le terme de fuite, en fait. C'est, je pense que le but du jeu, c'est de revenir à nous. Le danger, c'est la fuite, justement. Toi, tu parles d'un auteur, mais à partir du moment où on a un monde qui est généré avec des règles simples qui créent de l'émergence, et on a, comme c'est le cas dans les mondes virtuels aujourd'hui, des interactions entre les gens, et du partage, et une repopulation de ces environnements-là, il n'y a plus d'auteur. Il n'y a plus que ce qui est, il n'y a plus que des gens qui sont dedans et qui ont une... Voilà. Et le principe de la rêverie, c'est pas de fuir, hein. Le principe de la rêverie, c'est de revenir au corps, en fait, c'est de revenir à soi.
Oui, mais la fuite, ça peut être c'est pas spécialement la fuite du corps ou la fuite de soi ou même éventuellement pire, la fuite de l'autre. Ça peut être aussi simplement la fuite d'une réalité ou d'une morosité qu'on n'a pas spécialement envie de vivre à ce moment-là et qui n'est pas pourtant la réalité. Peut-être que finalement, ma réalité virtuelle m'est plus réelle à moi, elle est plus proche de ce que j'ai dans mon mental ou même de ce que j'ai envie de vivre, même de manière sensorielle, que le quotidien dans le métro parisien, par exemple. C'est en ça que je parle de fuite, mais peut-être qu'effectivement le mot est mal choisi.
Est-ce que se balader en forêt, c'est une fuite?
Oui.
Non, mais, c'est très intéressant. On fuit la réalité en étant dans la réalité, quoi.
C'est une évasion plutôt qu'une fuite.
Merci. Voilà. Peut-être qu'effectivement le mot évasion est plus...
Comment disait Tolkien, je préfère l'évasion du prisonnier à la fuite du déserteur. Je crois que c'est ça qu'il disait, pour qualifier la nature de l'imaginaire, en fait. Dans quel moment on déserte et à quel moment on s'évade, voilà. Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai fait des expériences de méditation. Et par méditation, je ne dis pas méditer sur quelque chose, parce qu'on ne médite pas sur quelque chose, on médite... la méditation est un état. Bon, à travers ça, que je partage, que je ne suis pas le seul à avoir, parce que, par exemple, il y a beaucoup d'environnements sociaux où les écoles de zen se pullulent. C'est incroyable. Le zen est en train d'obtenir une seconde vie dans les mondes virtuels. C'est incroyable. C'est la méditation assistée. C'est-à-dire que les gens vont se mettre dans un dojo, dans un univers virtuel. Ils vont prendre leur avatar. Comme le zen est une discipline du corps pour induire un état à un moment donné, ils vont prendre leur avatar, ils vont le positionner précisément de la bonne façon, se concentrer dessus, donc être concentré de la même manière que le zen demande de la concentration sur quelque chose, et ils vont se servir de l'environnement dans lequel ils sont pour reproduire, et de ce fait, méditent aussi, quoi, en même temps. Et une espèce d'effet rebond comme ça, et c'est très puissant, et les gens, c'est assez étonnant, en fait, quoi. Donc, bon, voilà, moi, je suis témoin de ça. Après, je ne suis pas certain que ce soit plus qu'un instrument de méditation. J'en sais rien.
On va malheureusement arriver au terme du temps que l'on a. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent réagir sur la thématique qu'on a là? Et si... Ah, bah, si, au fond, rapidement...
Oui, bonsoir. Je voulais dire que j'aime beaucoup l'exemple du phoque qu'on donne aux retraités japonais, que David Calvo fait un peu la même chose à titre personnel. J'ai envie de le prendre contre moi et de le rassurer, et que ça me fait du bien. Non, je voulais rebondir sur les bugs qui sont encore à l'écran et que je trouve assez sensationnel, et que très clairement, s'il y avait un jour une anthologie des bugs de conception qui donne ce genre d'image, ou comme le coup de la lave qui parle dans des sens quasi mathématiques, je suis hyper acheteur pour créer des mondes et créer des exoplanètes et des choses comme ça. Il y a une poésie incroyable là-dedans, quoi. Donc j'espère que c'est compilé quelque part, que c'est pas perdu, quoi. C'est assez fantastique.
Ah, c'est perdu, mais l'exploration est... Enfin, je veux dire, c'est... J'ai pas les paramètres en tête, par exemple. Mais en fait, si, je dois les avoir sous le coude, ces paramètres-là.
Je veux bien les dealer.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, il y a tout un pan d'exploration pour proposer des univers exotiques au travers de paramètres physiques autres. Et donner aux joueurs la possibilité de modifier ces paramètres et de jouer avec. Donc c'est pas le cas dans From Dust, mais ce serait quelque chose de vraiment intéressant.
David, pour finir en deux secondes sur l'hypernature, est-ce qu'on a exploré ce que tu cherchais à explorer?
Non, rendez-vous l'année prochaine. On vient de commencer là. Je sais pas où on en est. J'ai à peine de commencer. On vient à peine de lancer les bases théoriques du truc, quoi. Et le mot hypernature n'existe pas. On le crée là, hein. Donc c'est un truc qui est créé par en travers nous. Donc on verra bien où ça nous mène. Pourquoi pas.
Très bien. Bah, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et à l'année prochaine. Donc. Merci.